France Inter, franceinter.com.
On est volé à la bourse comme on est tué à la guerre par des gens qu'on ne voit pas. Alfred Capu, La bourse ou la vie. ans d'histoire. Le jeudi 24 octobre 1929, à Wall Street, dès l'ouverture de la bourse de New York, 13 millions d'actions étaient jetées sur le marché, en perdant jusqu'à 30% de leur valeur. C'était le début d'une panique boursière qui, dans le pays le plus riche du monde, allait conduire des millions d'Américains dans des soupes populaires et des dizaines de milliers d'entreprises à la faillite, tandis que la crise s'étendait au monde entier, provoquant l'effondrement du commerce international, le chômage de 30 millions d'Européens et la ruine des pays pauvres qui ne trouvaient plus de débouchés pour leurs matières premières. Mais en ce mois d'octobre 1929, personne n'était encore conscient de la catastrophe qui se préparait. À la radio, un humoriste célèbre, Eddie Cantor, tournait même en dérision le sacro-saint marché des actions du Stock Exchange, la bourse de New York, dont l'effondrement allait pourtant provoquer la plus grande crise économique de l'histoire.
Well, folks, they got me in the market
just eh bien, mes amis, je me suis fait avoir par la bourse comme tout le monde.
In fact, they're not calling it the stock market any longer. It's called the stock market.
En fait, on ne l'appelle plus le stock market, mais le stock market, le marché arrêté. Tout le monde est coincé, sauf mon oncle. Il a eu de la chance, il est mort en septembre.
With the way the market has been running,
avec le marché actuel, beaucoup d'hommes partent au travail en Rolls-Royce et reviennent à la maison en camionnette. De nos jours, quand un homme demande une chambre dans un hôtel au 19e étage, on lui répond « C'est pour dormir ou pour sauter par la fenêtre ?»
Oh, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. We'll have to have more margin now. There isn't any doubt. So you better dash with a load of cash or we'll have to sell you out.
Bernard Gazier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à la Sorbonne et auteur d'un Que sais-je sur la crise de 29 qui commençait, on vient de l'entendre, par une crise boursière le jeudi 24 octobre 1929, le jeudi noir, si bien qu'on y fait toujours référence à chaque fois que se produit un krach boursier comme celui de lundi dernier. C'était un nouveau jeudi noir, disait Dominique Strauss-Kahn. Est-ce qu'on peut comparer les deux crises, celle de lundi dernier et celle qui s'est produite aux États-Unis il y a 70 ans?
Alors on peut tout à fait comparer le déclenchement de ces paniques boursières. Dans les deux cas, c'est parti des États-Unis. Il s'en est suivi une baisse de confiance à l'échelle planétaire et d'autres bourses elles-mêmes ont été entraînées dans le mouvement. Les ordres de grandeur sont à peu près les mêmes. La seule différence peut-être, c'est qu'aujourd'hui, ça va encore beaucoup plus vite qu'en 1929. Le lundi noir dont nous venons de parler, puisqu'il y a ces jours noirs des lundis, des mardis, des jeudis, eh bien le lundi noir que nous venons de vivre, en fait, ne portait pas sur les États-Unis, puisque aux États-Unis, c'était fermé. C'était un jour férié. En revanche, le reste de la planète a suivi, comme un seul homme, la spirale de la défiance.
Alors, il y a d'autres points communs. On va les voir tout de suite en rappelant ce qui s'est passé aux États-Unis en 1929. Une spéculation boursière, vous le rappelez, sans aucun rapport avec la réalité de l'économie américaine, d'autant plus grave d'ailleurs que beaucoup d'Américains, beaucoup plus proportionnellement qu'en France à la même époque, spéculaient, jouaient à la bourse, même des Américains modestes, et ils étaient en cela encouragés par un système extrêmement pervers qui consistait à pouvoir acheter des actions à crédit, on ne versait que 10% de leur valeur et le reste était à crédit, Bernard Gazier, ce qui est assez dangereux.
Oui, c'est ce qu'on appelle les call loans. Ce sont donc des prêts qui anticipent une hausse des cours. Alors, le prêteur, aussi bien que le spéculateur, eh bien, se rembourse en quelque sorte sur la hausse future. Alors, tant que ça monte, évidemment, tout va très bien.
Il rembourse son crédit avec ses...
Voilà, il rembourse avec ses gains et il continue. C'est donc une sorte d'échelle permanente. Alors, évidemment, cette mécanique de spéculation sur les cours, ben, elle perd complètement de vue à quoi sert une action. Une action, normalement, ça rapporte des dividendes. Mmh. Et les dividendes sont perdus de vue puisqu'on ne parle plus que des cours. Et donc, il y a un moment où la déconnexion devient visible et à ce moment-là, tout évidemment peut s'effondrer comme un château de cartes.
Oui, parce que vous le rappelez aussi, je le disais à l'instant, cette spéculation est sans aucun rapport avec la réalité de l'économie américaine. C'est le marasme. Je crois qu'entre 1921 et 1929, il y a les valeurs des actions ont augmenté de 300%, c'est-à-dire 6 fois plus vite que celles des entreprises, que la production industrielle.
Tout à fait, ça a décollé en fait à partir de 1926-27. On peut considérer que jusqu'à cette date, 1926-27, le cours des actions est un peu parallèle à celui, à la courbe d'évolution des dividendes. Donc bon, c'est à peu près dans le même rythme. En revanche, à partir de 26-27, ça se met à décoller de manière considérable et cumulée.
Alors tout repose donc sur la confiance et quand on se rend compte de ça, eh bien justement elle va disparaître, si bien que la bourse commence à baisser puis c'est le crack malgré les discours rassurants de ce journaliste qui le 31 octobre 1929, quelques jours après ce jeudi noir, encourage les porteurs d'actions à ne pas céder à la panique.
La foule immense rassemblée devant le Stock Exchange est due au plus grand krach boursier de toute l'histoire de la bourse de New York. D'après moi, la panique de Wall Street est passée. La spéculation boursière était devenue folle. Personnellement, j'ai acheté des valeurs depuis le krach de mardi et incité ceux qui le peuvent à faire de même sans s'endetter. J'ai confiance.
Et c'était Cliff Edwards chantant « Sous la pluie » en 1929, comme ce journaliste qu'on entendait le 31 octobre 1929 essayer de rassurer tous les porteurs d'actions pour qu'ils en achètent et donc redressent la situation. En réalité, la crise avait commencé dès le 3 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi soudain les Américains, ou au moins les porteurs d'actions, ont-ils perdu confiance?
En fait, la confiance est quelque chose de fragile. Et elle le devient de plus en plus à mesure que les cours montent, parce que les gens savent bien quand même quelque part que ça n'est pas conforme à l'évolution logique de l'économie, qu'il y a un gain supplémentaire qui s'est construit comme une sorte de mayonnaise. Et donc, il suffit de presque rien, quelque chose d'arbitraire. Et dans le cas de 1929, eh bien, à vrai dire, on ne sait pas bien. Alors, il y a eu une faillite quelques jours avant, à Londres, un homme d'affaires, Clarence Attrey, ça avait un tout petit peu, mais très peu, secoué la bourse de Londres. Et puis, il semblerait que ce soit le prétexte à partir duquel ben, tout s'est inversé. Mais c'est un petit peu comme un ballon, il suffit d'une tête d'épingle.
Alors, on parle du jeudi noir, le 24 octobre. En réalité, un peu d'ailleurs comme aujourd'hui, espérons que non, mais ce qui se passe, c'est que dès le 24 octobre, première chute, première vente massive d'actions, 13 millions d'actions, mais tout de suite, les banques interviennent et on comprend pourquoi, ou on comprendra pourquoi, pour racheter des actions. Donc, les cours remontent et le véritable effondrement se passe le lundi et mardi suivant, Bernard Gazier.
Oui, alors effectivement, c'est que lorsqu'on essaye de lutter contre un effondrement cumulatif de la confiance,
comme on essaie de le faire en ce moment,
voilà, et bien il faut frapper très fort. Sinon, vous n'êtes pas à la hauteur du problème et la défiance repart et même devient plus importante parce que tout le monde se dit « Ouh là là, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas, donc vendons, vendons, vendons en attendant que ça aille mieux ». Il y a donc un processus qui demande un dosage quasiment imprévisible. La seule chose qu'on sait, c'est que ça doit être massif, sinon eh bien, la défiance continue.
Alors effectivement, elle va continuer à partir du 29 octobre. Nouvel effondrement donc des actions, ça ne s'arrêtera plus. D'ailleurs, on tient toujours des propos rassurants. On a un peu ri des propos de Mme Lagarde lundi dernier. Mais bon, c'est son rôle. Il est évident qu'elle ne va pas tenir des propos alarmants qui aggraveraient la baisse des actions. Bernard Gazier.
C'est d'autant plus son rôle que personne ne sait très bien ce qui va se passer. C'est-à-dire que l'incertitude demeure extrêmement grande. Il faut rappeler qu'en 1987, il y a eu un autre effondrement boursier où en une journée, la bourse de New York avait perdu 20% de valeur. Eh bien, le lendemain, les banquiers centraux s'étaient tous téléphonés. Une intervention extrêmement coordonnée, très puissante, est arrivée dans le monde entier. Et ensuite, cet effondrement-là, eh ben, on n'en a plus jamais entendu parler.
Alors revenons à celui de 1929 qui ruine des millions de petits porteurs, pauvres ou riches comme cette pianiste Margaret Shotwell, le 16 novembre 1929.
J'ai demandé à tous mes amis riches des conseils pour la bourse. Ils m'en ont donné et j'ai perdu mon million. Maintenant, la seule chose qu'il me reste, c'est ce manteau en chinchilla. Je l'ai payé $25,000. Y a-t-il des porteurs d'actions pour acheter mon manteau? Voici mon conseil. Si vous avez assez de chance pour avoir $1,000,000, gardez tout et ne jouez pas en bourse.
The stock exchange is a funny place. It's the strangest place in town. The seats cost $500,000 cash, but the brokers won't sit down. There's the broker, the bull and the bear. It's queer, but it's not a joke. For you get the bull till your bankroll's bare, and the broker says you're broke. And here is the song I hear the whole day long. Oh, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. We'll have to have more margin now. There isn't any doubt. So you better dash with a load of cash, or we'll have to sell you out.
The market is not so good today. Tale of the Ticker, c'est une chanson de Frank Kermit le 30 septembre 29. C'est juste avant que se déclenche la crise. On voyait déjà que les actions commençaient à fléchir, Bernard Gazier. Alors, si la crise de 29 n'avait été que boursière, elle n'aurait concerné que les actionnaires, mais elle a frappé tous les secteurs de l'économie. Comment est-ce qu'on est passé d'une crise boursière à une crise économique qui a d'abord, vous le rappelez, frappé les banques?
Oui, en fait, les canaux de transmission, il y en a plusieurs. Enfin, les plus importants sont d'abord simplement les difficultés des banques. Les banques, par définition, une banque, ça repose sur la confiance. C'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup d'argent en caisse et vous faites circuler une monnaie et personne ne vous demande de payer à partir de votre monnaie que vous avez en caisse. C'est un peu ça le principe d'une banque. Alors, à partir de là, ces banques qui avaient prêté, qui avaient elles-mêmes été solidaires, voilà, de cette spéculation, se sont retrouvées en difficulté. Les individus n'ont plus voulu acheter à crédit. C'était le premier essor des achats à crédit à l'époque.
Et comme aujourd'hui, ça
voilà,
fait
des meubles, des machines à laver. Les gens achetaient à crédit, puis tout d'un coup, on t'arrêtait. Alors, tout s'est bloqué et il y a eu ce qu'on appelle une course vers la liquidité. Les gens ont été voir leur banque en leur disant « Écoutez, bien, si ça vous fait rien, je retire mes avoirs, mais je les veux en cash. »
Et elles ne pouvaient pas.
Les banques n'avaient plus les billets, elles sont donc arrivées en banqueroute.
Alors, énormément de faillites bancaires, une baisse aussi de la consommation qui va toucher les entreprises, puisque les Américains, qui sont plus ou moins fauchés à cause des faillites bancaires, à cause de la chute de la bourse, consomment moins. Les entreprises révisent leurs prévisions à la baisse. Commencent à licencier du personnel, n'investissent plus. Et puis alors, elles essayent de liquider leur stock en baissant les prix. C'est la déflation. Or, contrairement à ce qu'on croit souvent, la baisse des prix n'encourage pas la consommation. Bernard Gazier, elle la dissuade, en tout cas pour les produits dont on peut reporter l'achat.
Oui, effectivement, un prix qui baisse, c'est avantageux. Si tous les prix se mettent à baisser en même temps, il y a quelque chose qui se bloque dans l'économie. Et donc, la déflation est une maladie extrêmement grave, qui est en fait d'ailleurs beaucoup plus menaçante à l'époque que l'inflation. Il y a eu quelques poussées d'inflation dans les années 20, il y a même eu de l'hyperinflation en Europe, mais normalement, l'ambiance de l'époque était plutôt à la stabilité et même un peu à la baisse des prix, et la crise s'est manifestée par une sorte de contraction indéfinie, vous gagnez de moins en moins d'argent, vous avez de plus en plus de mal à en dépenser, et finalement, tout le monde se retrouve perdant.
On entre dans un cercle vicieux, la crise en quelque sorte se nourrit d'elle-même, et puis elle jette dans la rue 15 millions de chômeurs aux États-Unis. La plus grande puissance du monde devient un pays sinistré où se trouvait alors Joseph Kessel.
Quand je me suis promené le premier jour dans ce cœur de New York, j'ai vu les breadlines des institutions charitables et la ville de New York elle-même avait établi partout des espèces de kiosques où pour une somme qui alors équivalait à 10 centimes, on donnait une tasse de café et un morceau de pain. Et il faut imaginer des milliers d'hommes et de femmes attendant leur tour d'avoir cette tasse de café et ce morceau de pain.
We want work!
We want work! We want work!
Pour remédier au chômage qui sévit durement à Chicago, les édiles de la grande cité industrielle ont décidé de refaire le pavage de plusieurs grandes artères et d'y employer les sans-travail. Mais ce n'est pas seulement pour le maigre salaire qui leur est alloué que tous ces malheureux se soumettent à un travail auquel ils ne sont pas accoutumés. La gaucherie de la plupart d'entre eux en est un témoignage. C'est aussi pour les vieux pavés de bois que la municipalité leur abandonne. L'hiver avance menaçant et le froid est un ennemi presque aussi redoutable que la faim.
I ain't got no home, I'm just a roaming round. Just a wandering worker, I go from town to town. And the police make it hard wherever I may go. And I ain't got no home in this world anymore. My brothers and my sisters are stranded on this road. A hot and dusty road that a million feet have trod. Rich man took my home and drove me from my door. And I ain't got no home in this world anymore.
I ain't got no home anymore. Je n'ai plus de maison désormais. C'était Woody Guthrie, une chanson donc de cette crise des années 30. Alors des Américains, on l'a entendu à la rue ou dans les soupes populaires. C'est un spectacle quand même inhabituel qui a effaré le monde entier, d'autant plus que c'est quelque chose qu'on voit dans le pays le plus riche du monde.
Oui, alors, il faut voir par exemple qu'aux États-Unis, en 1929, on a produit 5 millions de voitures. À l'époque, en Europe, n'avaient de voitures que les cadres supérieurs, une toute petite élite restreinte. Et donc, il y avait là-bas l'arrivée de la consommation de masse. Alors, c'est ce processus qui s'est violemment inversé. Et effectivement, le destin de ces chômeurs, c'est finalement, ils sont très mal indemnisés, c'est de devenir vagabonds, de vendre des pommes et éventuellement de faire des émeutes.
Tous les secteurs de l'économie, de la société sont touchés, les agriculteurs également. Tandis que, alors, ce qui est frappant, c'est que les pouvoirs publics sont totalement impuissants devant la crise, peut-être par principe. Le président de l'époque, c'était Hoover, très attaché aux libéraux. Pas question pour lui d'intervenir dans l'économie. Il laisse les gouverneurs ou, on l'a entendu, les municipalités comme Chicago traiter le chômage à leur guise. Et il se contente de dire, Hoover, la prospérité est au prochain tournant. Enfin bref, il y a manifestement une défaillance. Mais est-ce que c'est par principe, par respect du libéralisme, Bernard Gazy?
Alors, c'est à la fois par principe et aussi, je crois, par manque de moyens. Parce que il y a quelque chose qu'il faut dire concernant Hoover. Il a fait des choses. Par exemple, il a organisé un système permettant de mieux sécuriser les banques, de compenser leurs pertes, de renforcer le réseau. Il a fait des choses comme ça. Mais le problème essentiel de Hoover, c'est que dans la défiance généralisée, quand vous êtes responsable d'un État qui n'a pas un très gros budget, parce que les États qui existent en Europe ou aux États-Unis en 1929 sont des petits États. Ils pèsent 10 à 15% du PIB, alors qu'aujourd'hui, l'État français pèse plus de 30. Donc, ce sont des petits États. S'ils se mettent en déficit, la crainte, c'est tout simplement d'en rajouter une couche dans la défiance. Il y a donc comme une sorte de cercle vicieux. Et alors, Hoover dit, ben non, il vaut mieux attendre, c'est très dur, il faut être vertueux, on va aider le minimum et on attend que ça passe.
Alors, et puis, il fait ce que font d'ailleurs d'autres pays au même moment. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se replient sur eux-mêmes, d'abord les États-Unis, par le protectionnisme. Ça paralyse, et même ça fait baisser le commerce international. Et c'est là que, d'une crise boursière devenue une crise économique américaine, on est passé à une crise mondiale, Bernard Gazy. C'est ça qui, évidemment, fait encore peur aujourd'hui.
Tout à fait. Alors, il y a plusieurs canaux, là aussi, de transmission. Il y a ce canal, effectivement, du protectionnisme, de la contraction massive des exportations. Un certain nombre de pays dans le monde ont vu leurs exportations baisser de 60 à 70% comme ça d'un seul coup. Plus personne ne voulait leur acheter en quelque sorte. Il y a un autre mécanisme, c'est l'effondrement du système monétaire de l'époque qui s'appelait l'étalon de change or et qui petit à petit a été complètement démantelé. Il y a eu des paniques, on a spéculé contre les monnaies, les capitaux passaient d'une capitale à une autre et finalement laissaient un paysage ravagé là où il s'en allait.
Alors la crise devient mondiale, elle s'internationalise, elle touche tous les pays, même les pays pauvres d'ailleurs. Hein, on pourrait se dire ils sont à l'abri, pas du tout. Vous citez le cas par exemple du Brésil qui, ne pouvant plus vendre son café, détruit ses stocks en les brûlant tout simplement dans les locomotives des machines à vapeur.
Oui, on peut considérer que la crise a touché le monde entier à une époque où il n'y avait pas ce que nous appelons aujourd'hui pleinement la globalisation ou l'interconnexion de tous tous les marchés, mais le mouvement était très rapide. Beaucoup de pays, en fait, du tiers-monde, étaient devenus prospères à l'issue de la Première Guerre mondiale. Parce que pendant que les pays développés se battaient, bah, ils produisaient ce dont ces pays avaient besoin. Alors ensuite, lorsque la paix est revenue, la concurrence est devenue très, très rude. Et finalement, bah, les pays du centre ont repris les activités industrielles extrêmement fortes, ce qui a gêné déjà, d'une première manière, ces pays. L'Argentine, par exemple, a eu des difficultés énormes. Et ensuite, eh bien, les matières premières elles-mêmes sont devenues moins demandées. Il y a donc eu comme une sorte de cercle vicieux. Et on peut même considérer que le processus de la crise de 1929 a mené à la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui le tiers-monde.
Et il a encouragé aussi autre chose, c'est la mise en place dans les pays les plus touchés de régimes autoritaires, comme par exemple le nazisme en Allemagne, le militarisme japonais. Et il a même conduit ces pays qui n'avaient pas de colonies, à des politiques expansionnistes. Ils ne peuvent plus importer ou exporter, le commerce se réduit. Les voilà qui partent dans des projets de conquête qui vont déclencher la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas un hasard si les trois pays qui se lancent dans cette politique, l'Italie, l'Allemagne et le Japon, seront alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Au fond, la guerre est derrière tout ça.
Oui, en fait, ce sont les aventures de l'autarcie. À l'époque, il y avait un pays qui inspirait tout le monde. On s'est rendu compte après qu'il fallait quand même drôlement changer le jugement, c'était l'URSS. L'URSS
oui, était
à l'abri de tout ça.
Et donc, elle se vante, voilà. Du coup, elle dit « Regardez le capitalisme ».
Lancée dans une expansion lourde, avec du béton, de l'acier, etc., est totalement indifférente aux convulsions, mais parce qu'elle n'avait aucun lien, ni bancaire, ni commercial avec le reste. Alors, les autres pays ont voulu faire pareil, c'est le cas notamment, effectivement, de l'Allemagne, etc., mais, voilà, l'autarcie, au bout d'un moment, ben, ça devient difficile. Alors, l'autarcie, ça devient ensuite une logique de conquête. Par exemple, l'Allemagne, manifestement, a un peu redémarré avec ces systèmes autarciques, mais déjà en 1939-40, beaucoup de gens savaient que sa productivité s'était effondrée, qu'il fallait autre chose, et ce qu'a trouvé Hitler, c'était l'expansion indéfinie.
Alors tout ça, dans les pays qui restent démocratiques, comme justement les États-Unis, c'est quand même la remise en cause du système capitaliste, on commence à en douter, et finalement, un doute que s'efforce de dissiper le président des États-Unis, élu en 1932 et prenant ses fonctions en mars 1933, Franklin Roosevelt.
C'est un jour de consécration nationale. Et je suis certain que mes compatriotes américains attendent de moi, leur nouveau président, que je prenne les décisions que nécessite la situation actuelle. Mais d'abord, laissez-moi vous dire ma conviction. La seule chose dont nous ayons à avoir peur, c'est la peur elle-même. La peur irraisonnée et injustifiée qui paralyse tous les efforts faits pour transformer cette récession en progrès.
Et c'était Roosevelt, le jour où il prenait ses fonctions, et qui essaye pas seulement de rassurer en disant « la seule chose dont il faut avoir peur, c'est la peur elle-même », mais qui va vraiment opérer une révolution dans le capitalisme en maintenant quand même les principes. Mais la politique du New Deal, par laquelle il va tenter de résoudre la crise, c'est vraiment une politique d'intervention de l'État.
Tout à fait, c'est une politique très interventionniste. On peut considérer que Roosevelt a voulu sauver le capitalisme malgré lui. Donc il a multiplié les interventions vraiment dans tous les domaines, par exemple en fixant des prix, en fixant des quantités, en fixant des négociations, en fixant la sécurité sociale, en fixant dans toute une série de choses qui n'existaient pas. Et ça n'a d'ailleurs pas très bien marché, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. On ne peut pas dire que Roosevelt ait fait repartir la machine américaine. Celle-ci n'est vraiment repartie qu'en 1945, après la Grande Guerre. Et la logique de Roosevelt était une sorte de, j'ose le mot, de tripotage. Roosevelt n'était pas du tout économiste. Il a reçu plusieurs fois Keynes, qu'il n'a jamais cru. Il n'a jamais voulu faire ce que Keynes lui suggérait. Mais en revanche, son interventionnisme consistait à dire, écoutez, les prix s'effondrent, on les fixe. Les producteurs sont désorganisés, on les organise. Et donc, il y avait toute une logique interventionniste qui s'est mise sur les rails et qui finalement a débouché, après 1945, sur un capitalisme beaucoup plus cohérent, de très grandes firmes, avec un nouveau système international financier. Et cette mécanique-là, elle a très bien marché.
Vous dites, Bernard Gazier, on a vu le déroulement de cette crise, on a vu un peu la façon dont les choses se sont entraînées les unes les autres, qu'aujourd'hui encore, on discute des causes de cette crise de 1929.
Oui, tout à fait. En fait, le déclenchement boursier, le retournement cyclique, tout ça, ça peut être petit ou gros. Ça peut impliquer d'autres choses ou non. Et donc, à ce moment-là, le débat reste ouvert. Il y a ceux qui croient que le capitalisme est fondamentalement stable et que c'est parce qu'il est dérangé par des interventions intempestives qu'il fait ces sortes de crises. D'autres qui disent, et c'est plutôt ce que je pense, qu'il est fondamentalement instable et qu'il y a des menaces de crise systémique et qu'il vaut mieux se parler, obtenir des barrières et des garde-fous et travailler dans ce domaine. Mais le débat reste encore ouvert aujourd'hui. Je connais des économistes qui disent « Mais vous vous rendez compte, en 1929, on a beaucoup trop intervenu. Si on avait laissé les choses se purger toutes seules, on serait sorti de la crise beaucoup plus vite.
Ah » oui. Ah oui, et vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, moi, je pense que. D'abord, je pense qu'on est sorti en 1929 tout seul de la crise et non pas grâce aux interventions ni de Roosevelt, ni bien sûr de Hitler ou d'autres. En fait, l'économie a rebondi toute seule. Vous savez, quand une entreprise ferme, ça ruine son propriétaire. Mais quelqu'un va peut-être la racheter à très bas prix et donc avoir quelque chose de très rentable qu'il pourra développer. Il y a donc des mécanismes qui font que s'inverse finalement la base de la contraction et donc les choses peuvent rebondir à condition que des tas de conditions soient satisfaites. Alors, cette mécanique-là, elle s'est lancée plus ou moins toute seule en 1932, avant Roosevelt, avant Hitler, et ensuite, ça a été tant bien que mal conforté. Alors, ce que je pense dans cette affaire, c'est que l'essentiel, c'est d'éviter la spirale de la défiance. La spirale de la défiance...
Dans cette affaire, laquelle ? Celle de 1929 ou celle d'aujourd'hui ?
Celle de 1929. Mais la leçon vaut pour aujourd'hui. Et ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est l'incohérence entre la banque américaine, qui a une politique massive, plutôt accommodante, et la Banque Centrale Européenne, qui ne dit rien, qui ne fait rien. Alors, les spéculateurs n'aiment pas ça, mais la confiance n'est pas restaurée, parce qu'on ne sait pas du tout où on va.
Elle semble restaurée aux États-Unis, mais pas en Europe, avec le maintien de taux élevés. Alors, est-ce qu'on n'est pas, d'ailleurs, en ce moment, un peu comme entre le 24 et le 29 octobre, il y a quelques mesures qui sont prises, ça redresse la situation temporairement, puis à nouveau, on est peut-être à la veille ou au jour d'une chute. En tout cas, les bourses européennes continuent de baisser.
Si je pense, parce que finalement, il y a deux traits qui nous rapprochent aujourd'hui de 1929. D'une part, nous avons de nouveau plusieurs monnaies de référence. Nous avons le dollar, nous avons l'euro et nous avons la monnaie chinoise. Et d'autre part, le monde s'est refinanciarisé. Alors tout ça, c'est une poudrière.
Merci Bernard Gazier. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La crise de 29, un livre qui vient d'être réédité aux Presses universitaires de France dans la collection Que sais-je ? Vous pouvez retrouver des informations supplémentaires sur notre émission par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Aurélie Fortin et Olivier Daligo. Documentation et archivina Emmanuel Fournier et Claire Destacan. Une réalisation de Anne Kobilac. Je précise que l'émission initialement prévue aujourd'hui sur le Café Concert est reportée au jeudi 21 février. Quant à demain, notre émission traitera d'une histoire des phares.